Christian Clot, bonjour. Alors, vous avez
Bonjour.
testé les endroits les plus extrêmes de la planète. Et pourquoi cela?
Alors, je mène des études depuis maintenant une dizaine d'années sur la capacité humaine d'adaptation aux conditions nouvelles et changeantes. Je fais ça entre autres parce que je suis explorateur depuis maintenant pas mal de temps et j'ai observé sur le terrain, que ce soit en expédition ou sur des terrains d'opération, des changements des personnes qui vivent ces climats très, très 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 difficiles, des changements cognitifs, des changements de personnalité, des changements de manière de fonctionner très profonds. Et donc j'ai décidé de me servir de ces milieux extrêmes comme des accélérateurs de situations dans lesquelles on se plonge pendant quelques semaines pour voir finalement comment se modifie, comment évolue le cerveau humain quand il est confronté à des changements profonds.
Alors justement, vous avez déclaré que nous allons vivre d'énormes changements. Je suppose que vous faites référence au changement climatique, notamment.
Oui, alors je fais référence à une petite période unique dans l'histoire de l'humain et de la planète en général, puisqu'on va vivre trois changements structurels concomitants. Le premier temps, alors le changement climatique, mais pas seulement climatique, le changement environnemental, puisqu'il faut ajouter la pollution plastique, les pollutions des sols, qui sont extrêmement dérangeantes par rapport à notre humanité et au vivant en général. Deuxième grand changement, et bien je crois que c'est typiquement le sujet de AI Paris, c'est le changement technologique, l'arrivée de nouvelles ressources technologiques qui va modifier profondément notre manière de fonctionner en tant qu'humain. Puis un troisième changement qu'il ne faut pas négliger, un changement sociétal, avec une augmentation de la population énorme, hein, puisqu'on est passé de 1,5 milliard il y a 100 ans à plus de 9 milliards dans quelques années, et puisqu'on a des changements, on le voit, hein, politiques, systémiques très profonds. Et ces trois changements sont concomitants et vont donc nous imposer en tant qu'espèce humaine de nous redéfinir par rapport à notre futur.
Alors justement, quels sont les parallèles qu'on peut tirer entre ces changements climatiques et les changements technologiques, et notamment l'intelligence artificielle?
Déjà, c'est deux changements qui vont structurellement totalement modifier nos manières de fonctionner. Que ce soit le changement climatique ou le changement technologique, je crois qu'on va devoir transformer tout simplement ce que nous étions pendant des millénaires dans notre fonctionnement, à savoir un fonctionnement relativement pérenne, relativement lent. On pouvait déterminer quelque part ce qu'on sera dans 10 ans ou dans 20 ans, ce qui n'est plus possible aujourd'hui. Je crois que plus personne ne peut dire ce que nous serons et ce que nous ferons dans 10 ans. Donc ces deux changements-là qui sont très très importants vont nous imposer une redéfinition profonde de ce que nous sommes en tant qu'espèce et puis en tant qu'individu. Deux parallèles intéressants avec le changement climatique et le changement environnemental en général, c'est qu'on a une accélération très profonde aujourd'hui de ce changement. On considère que l'accélération est telle que peut-être que dans 10 ans, on n'aura plus certains glaciers et qu'on aura modifié fondamentalement les climats de certains milieux. On a d'autres territoires qui ne sont plus cultivables tellement ils sont saturés de plastique. Et je crois que la technologie est en train de faire la même chose. On voit l'évolution extrêmement rapide des nouvelles technologies. Alors ça ne veut pas dire que c'est mauvais, ça veut simplement dire qu'il faut les considérer à l'aune de ce qu'elles sont, savoir ce qu'elles vont pouvoir devenir pour nous et puis se préparer tout simplement, s'adapter à ces nouvelles conditions de vie.
Alors vous avez déclaré également que l'homme est un animal collaboratif. Est-ce que vous pourriez développer et surtout en quoi cette caractéristique nous aidera-t-elle à surmonter ces énormes changements que vous avez décrits?
Oui, alors je crois que l'homme est fondamentalement un animal collaboratif, coopératif, à savoir que seul un humain, il peut rien faire. Vous mettez un humain tout seul au milieu d'un désert, vous mettez un humain tout seul au milieu d'une ville, vous mettez un humain tout seul face à des nouvelles situations, il est très faible en réalité. Dès le moment où on le met en groupe, il est capable de produire des solutions étonnantes, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on a été développé pour ça. On n'a pas la capacité, si on doit remonter très très en arrière, de chasser un mammouth laineux tout seul. Il faut le faire en groupe. Donc déjà, on a été constitué en termes d'évolution cognitive pour fonctionner en groupe. Petit groupe, grand groupe, c'est assez différent. La deuxième chose, c'est que l'humain est capable, et c'est peut-être le seul animal à pouvoir le faire, ça je ne peux pas le garantir, mais on peut le soupçonner, de constituer une histoire, à savoir de s'adapter et de vouloir fonctionner par rapport à un mythe qu'on a conçu et sur lequel on est tous d'accord. L'argent en étant, par exemple, on accepte l'argent parce qu'on est tous d'accord qu'un billet de 100 euros vaut 100 euros. Et parce qu'on est capable de modéliser une idée, qu'elle soit religieuse, économique, philosophique, on est capable de s'assembler autour d'un concept. Et cet assemblage-là, il est ultra performant pour répondre à des situations qui sont complexes. Parce que, et c'est là l'importance, alors je fais une réponse un peu longue, hein, je suis désolé, mais elle est importante, on est capable de diversité. C'est-à-dire que vous mettez 10 humains qui viennent d'horizons différents, de cultures différentes, d'enseignements différents, vous les mettez ensemble dans une même pièce, ils sont capables de trouver des solutions extraordinaires à des problèmes qu'ils ne connaissaient pas encore avant. Là où peut-être que la technologie est plus limitée sur ce point précis, puisque la technologie est développée pour répondre fondamentalement à un problème spécifique face auquel elle est extrêmement douée, mais pas forcément pour répondre à des problèmes pour lesquels elle n'a pas été préparée. C'est peut-être notre force en tant qu'espèce humaine que d'être capable de faire face à des problèmes totalement inconnus de nous, mais quand même d'y trouver des solutions. La chose intéressante, c'est que nos cerveaux, qu'on connaît très mal, hein, faut quand même le préciser, on oublie souvent que notre cerveau est quelque chose de très très peu connu, sont capables de fonctionner en collaboration. On sait aujourd'hui qu'une personne dans une pièce qui fait une tâche ne fait pas fonctionner les mêmes zones de son cerveau si elle est seule dans cette pièce ou si elle est accompagnée d'autres personnes, même si ces personnes n'interfèrent pas avec elle. Ça veut dire que le cerveau, il se met en disposition par rapport à la situation dans laquelle il est face aux autres personnes qui l'entourent. Et ça, c'est une chose extraordinaire. On est au tout début de la compréhension de ce que pourrait être la mise en réseau de ces différents cerveaux, de la capacité que ça pourrait créer. Donc, je crois qu'on a là tout un champ d'études à faire, extraordinaire. Et si on doit comparer ça à l'intelligence artificielle, eh bien, je crois tout simplement que c'est incomparable. L'intelligence artificielle a une capacité de développement extraordinaire, on le voit, on la voit évoluer. Il faut peut-être pas non plus lui prêter tous les mythes qu'on veut bien lui prêter sur sa future capacité à devenir totalement autonome. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle a son développement qui va être d'une utilité folle pour résoudre des problèmes très complexes, mais ce sera toujours des problèmes unitaires. Et je crois que le cerveau cognitif sera capable de résoudre toujours des problèmes totalement complexes et nouveaux.
Donc, en conclusion, pour nos lecteurs, l'intelligence artificielle est plus une chance qu'un danger.
Je crois que c'est une chance si on accepte de considérer l'intelligence artificielle pour ce qu'elle doit être, à savoir une formidable capacité de calcul et de résoudre des problèmes complexes. Mais là où on pourrait rendre les choses complexes, c'est si on décidait, alors que cette intelligence artificielle n'est pas mature, alors qu'on n'a pas encore compris complètement le cerveau humain, qu'on décidait de donner à cette intelligence artificielle un pouvoir de décisionnalité finale. Et c'est là peut-être la difficulté. Je milite pour ça, je milite pour la cohabitation de l'intelligence artificielle et de l'intelligence naturelle, parce que nous avons chacune et chacun un rôle à jouer dans le futur. Mais il ne faudrait pas vouloir faire de l'un le remplaçant de l'autre. Parce que tout simplement, ce n'est pas le sujet. Et ce n'est pas d'ailleurs le but, à mon sens, de l'intelligence artificielle.
C'est-à-dire qu'en fait, à terme, ce n'est pas seulement un sujet technologique, mais c'est un sujet sociétal et même politique, on pourrait dire.
Vous savez, je suis assez surpris de voir qu'on considère l'intelligence artificielle sous un angle technologique, effectivement. Je crois qu'on doit considérer l'intelligence artificielle sous un angle éthique, philosophique et de compréhension de ce qu'elle peut apporter ou ne pas apporter dans le futur. Il y a, à mon avis, une erreur majeure que l'on fait avec la haute technologie aujourd'hui, c'est qu'elle est créée par des personnes qui n'ont reçu aucun cours de compréhension éthique et philosophique. On le voit, les jeunes qui sortent de grandes écoles, deep learning, AI et autres, qui sont des gens fabuleux, qui ont des capacités de développement extraordinaires, n'ont peut-être fait que ça toute leur vie. Ils n'ont jamais conçu cette intelligence par rapport à l'ensemble du vivant, l'ensemble de l'univers qui les entoure, parce que ce n'est pas leur besoin. Mais un jour, cette intelligence artificielle ou ce nouvel système technologique est confronté à l'ensemble naturel qui l'entoure. Et c'est là qu'on rentre dans les difficultés. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit que certaines intelligences artificielles ont les mêmes biais que les humains, à savoir elles peuvent être racistes, elles peuvent être homogendrées, elles peuvent être. C'est pas qu'elles le veulent, c'est simplement qu'elles ont été développées dans ce sens-là. Donc je crois que on doit mettre ce débat sur la table de comment nous voulons continuer de développer ces intelligences en y intégrant fondamentalement la notion éthique et philosophique. Parce qu'on le voit d'ailleurs avec les grandes technologies comme les personnes qui ont créé les Facebook, Google et autres, à un moment donné, ils se disent, mince, je ne suis pas sûr d'avoir maîtrisé ce que j'ai créé. Et ça, c'est normal, hein. Je crois que c'est le lot de tout créateur, c'est Shelley avec Frankenstein dans un sens. Hein. On crée quelque chose et on ne la maîtrise pas totalement et c'est complètement normal. Et c'est donc à la société de s'emparer de ce sujet, non pas pour, encore une fois, interdire ou bloquer le développement de l'intelligence artificielle ou des nouvelles technologies en général, d'ailleurs, mais pour comprendre et peut-être effectivement mettre un certain nombre de freins, de lois en place qui permettent tout simplement que la cohabitation de ces nouvelles technologies et de l'espèce, des espèces vivantes puissent se faire dans la meilleure harmonie possible.
Merci Christian, et en attendant le docteur Moreau, on vous retrouvera à AI Paris les 11 et 12 juin 2019. À très bientôt.
Merci beaucoup à vous.